Deezer Originals. Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de SoFoot.
Football Recall.
Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les jeudis, sur le site de SoFoot et de Deezer, on te spoil ton week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va te raconter ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir.
Avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, devenir Laurent Wauquiez, te démultiplier, donner des cours dans une école privée, être président de région, diriger un parti politique, créer la polémique dans les journaux, créer la polémique à la radio, créer la polémique à la télé.
Oui.
Bref, avec Football Recall, tu vas être sur tous les fronts.
Je m'appelle Thomas Joseph Antoine, c'est important de le dire, c'est mes vrais deuxième et troisième prénoms.
Ah bah c'est intéressant, on est content de le savoir. Et je m'appelle Mathieu Luc Eric.
Ah,
et oui.
Les évangiles.
Et oui. Et comme toutes les semaines, on vous raconte les grandes histoires de ce week-end de foot. Voici le sommaire de ce 8e numéro.
Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres.
Cette semaine, dans Football Recall, vous retrouverez vos rubriques habituelles. On va vous dire quelles banderoles vont déployer les ultras ce week-end. Et on fera un point Allo Docteur sur la cheville la plus célèbre de France, celle de Neymar. Et cette semaine, dans Football Recall, surtout une émission un peu spéciale. À la place de notre habituel reportage, vous allez entendre des témoignages exclusifs. Bruno a contracté un cancer sous la voûte plantaire. Yanis a eu un grave problème à la jambe. Bruno et Yanis jouaient régulièrement au foot sur terrain synthétique. Tous les deux se demandent aujourd'hui si les billes en caoutchouc répandues sur le terrain ne sont pas à l'origine de leur maladie.
Quand ils m'ont décelé mon cancer, j'ai le seul remède pour guérir, ça a été l'amputation. Donc j'ai été amputé de la jambe droite au niveau transtibial.
Football Recall.
Et chaque semaine, on est accompagné par deux journalistes de l'équipe SoFoot et Society qui se relaient. Mmh. Aujourd'hui, on accueille Thibaut Shepman. Salut Thibaut.
Salut Thibaut.
Ça va ?
Très bien.
T'es venu sans notes, hein, je vois. T'es costaud dans la tête.
YOLO. Voilà.
Très bien. Thibaut, tu as déjà écouté le podcast. Tu sais qu'on te demande ton ASC, ton âge, sexe, club. On t'écoute.
Alors, mon âge, j'ai 30 ans.
Ouais.
Tu fais moins déjà. C'est vrai.
Sache-le, ouais.
C'est cool. Mon sexe, je suis un homme et je supporte le.
Dis-le.
Allez, dis-le, n'hésite pas.
C'est chaud. Vas-y.
Je supporte le LOSC.
Ah,
oui, LOSC,
voilà.
c'est notre équipe.
C'est notre premier
supporter du LOSC.
Et le dernier, sûrement. Sûrement le dernier aussi.
Je sais pas, on a beaucoup de gens de l'Est.
Ouais. Il faut pas avoir honte, Thibaut, parce qu'il y a des gens qui, par le passé, dans ce podcast, ont supporté Metz et Nancy.
Oui.
Donc, tu vois.
Ouais, par le présent aussi.
Et par le présent.
En parlant de ça. C'est le retour de Sylvain Gouverneur. Salut Sylvain.
Salut.
Ça va ?
Ça va toujours.
Est-ce qu'il faut encore te demander ton ASC ? Je crois.
Alors, je m'appelle Sylvain.
Oui.
J'ai 42 ans.
Toujours.
Toujours.
Tu fais plus.
Je fais plus. C'est beaucoup de travail. Je bois, je bosse beaucoup.
Ben, ça s'entend vachement à la voix déjà. Hein.
Voilà. Ouais. Et je suis un supporter déçu de l'AS Nancy Lorraine.
Voilà, tu vois. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas honte.
Je trouve qu'il y a plus de classe à supporter Nancy que le LOSC.
Il y a du panache en tout cas. Il y a beaucoup de panache. Il y a peu de champagne et un peu de panache.
Et moi, ce que je trouve classe, c'est d'être un supporter déçu. C'est-à-dire que tu arrives encore à être déçu aujourd'hui.
Oui. Il reste deux places. On est 17e. Peut-être 18e.
Eh oui, Inch'Allah.
Hein, je pense que bon, on devrait être 20e d'ici deux journées.
Est-ce que ça va, à part ça, à part les supporters de Nancy, est-ce que ça va ?
Oui, moi je suis un poil colère.
Pourquoi ?
La réforme de la Coupe Davis.
Ah,
alors la semaine dernière, on a parlé biathlon.
Oui.
Parlons tennis cette semaine.
On a perdu beaucoup de monde. Allons-y, perdons du monde avec le tennis.
Voilà.
Avec la réforme, mais point par point. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur tous les points.
Non, mais on doit résumer très sommairement les choses. En fait, la Fédération internationale de tennis veut condenser la Coupe Davis sur une seule semaine en novembre. Donc toutes les équipes se rencontreront pendant une semaine, c'est fini.
Une sorte de Coupe du Monde,
Coupe
du Monde.
C'est
quoi.
Ça. Et les joueurs français sont furieux parce qu'ils venaient de la gagner. Alors ils se sont dit, merde, on change un truc, on vient de le gagner, on le change.
Bien sûr.
Pas de bol. Et un des plus en colère, c'est Paul-Henri Mathieu.
PHM. Ah.
PHM, il a dit, c'est la mort de la Coupe Davis.
Ah,
ouais.
Pourquoi ?
Parce que lui, il aimait bien aller perdre des matchs au cinquième set du cinquième match en Russie.
Ah, on y est, c'est ça.
Ouais. Mais quitte à condenser, est-ce qu'on ferait pas tous les matchs en même temps ?
Oui.
Sur le même terrain ?
Oui, je
voilà,
pense.
Comme ça, on fait tous, on met 10 joueurs d'un côté, 10 joueurs de l'autre, voire peut-être 11. Voilà, ouais. Et comme ça, c'est fait, on
condense
passe à
tous
autre
les
chose.
Sports. On fait une
tous
semaine.
Les sports.
La première semaine de l'année, c'est la semaine la deuxième
Exactement.
Semaine de janvier, on passe au biathlon.
Ça s'appelle les JO.
Bon, on parle de foot maintenant.
Ouais.
On y va ?
Allons-y. et votre week-end de foot commence ce vendredi 2 mars dans la nuit.
Vendredi minuit.
J'imagine que vous avez tous froid. Il fait froid, hein.
Il fait froid en ce moment.
Il fait très froid. Ouais. Alors, il paraît quand même que le froid, c'est que dans la tête. Hein.
Oui, exactement. C'est ce que disait Véronique Courgeot, d'ailleurs, je crois.
D'accord. C'est très malin. Ouais, c'est très, très, très malin.
Ouais, ça va, je peux faire cette blague. Hein. Moi aussi, j'ai un congélo chez moi.
Bon, alors, si vous avez froid, sachez que vous êtes tous des petites natures. Demandez à Scott Brown ce qu'il en pense.
Scott quoi ?
Scott Brown.
Ouais.
Car ce vendredi 2 mars, à minuit, Scott rentrera du pub direction Dodo en petit polo pépouze. Précision, Scott Brown est capitaine du Celtic Glasgow. Et pour les nuls en géo, Glasgow, ça se trouve en Écosse, donc un peu loin des tropiques. Mm-hmm. Il fait un peu froid là-bas. Alors le plus dingue, c'est qu'en plus, Scott n'en est pas à son coup d'essai.
Ouais.
La semaine dernière, il s'était déjà promené en pleine rue avec un simple polo.
Oui.
Et il n'était même pas à Glasgow, il était à Saint-Pétersbourg.
Ah.
Pour les nuls en géo, Saint-Pétersbourg, c'est au nord, en Russie, et il est fait très froid. Précisément, le soir où Scott Brown était en polo, il faisait moins 11.
Oh,
alors, c'est un froid excité tous les JT de France.
Ouais.
Et un joueur de foot en tenue d'été, en plein froid, c'est pas banal, c'est un peu insolite.
Oui, ça intéresse.
Et en tout cas, c'est comme ça que cet Écossais a fait tourner la tête des Russes et que le compte Twitter du Zénith de Saint-Pétersbourg a dit « Il fait moins 11 et Scott Brown est devenu l'Écossais préféré des Russes. »
Tout ça grâce à un polo.
Tout ça grâce à un polo. Et Eurosport Russia nous apporte même une précision importante. Scott Brown, je cite, a dirigé ses coéquipiers et a été le premier à prendre un vent violent sur les rives de la Neva. Le mec, quand même, il était au premier
loge. Costaud, ouais, c'est costaud, une sorte costaud. De capot.
Alors, en fait, je remarque aussi qu'il est devenu l'Écossais préféré des Russes et j'aimerais savoir qui était l'Écossais préféré des Russes avant.
Le deuxième.
Très bonne question.
Voilà. Question.
Très, très bonne question.
Voilà.
Là, on cherche tous un Écossais célèbre et on sait.
Qui produisait de l'alcool en scène.
Oui, merci voilà, Thibaut. Voilà, on voit ça. Le mec intelligent qui a fait. T'as fait S, non, peut-être
Ouais, enfin, j'ai. Oui.
Ouais, je savais, je le sentais.
Donc voilà, en tout cas, donc Scott Brown a mené ses coéquipiers en plein froid. Il les a pas menés en tout cas vers la victoire, puisque le Celtic a perdu le lendemain 3-0 face au Zénith de Saint-Pétersbourg. Oui. Pardon. En tout cas, ça vous étonnera pas si je vous dis que Scott Brown a la réputation d'être un milieu de terrain coriace qui prend ses adversaires à la gorge pour ne plus les lâcher.
Oui.
Pour parler en langage jeune, je dirais un chien de la casse. Est-ce qu'on a le droit de dire ça parce que
oui, mais on a plus de 30 ans, donc c'est un peu
parce que je
ridicule.
Sais pas trop ce que ça veut dire comme expression, et j'étais hyper content de pouvoir enfin la caser.
On dirait mon père qui fait yo les jeunes.
Ouais, c'est un peu ça.
Chez la Watt.
Ouais. Ouais. Donc c'est un chien de la casse, mais un chien de la casse classe.
Oui.
Salué par une star de foot britannique.
Je crois qu'il sait toujours pas ce que ça veut dire.
Non. Et je vous laisse écouter ce que cette star du foot britannique dit de Scott Brown sur la chaîne britannique BT Sport. On écoute.
I think where this come from, Scott Brown. I've played against Scott Brown and he's a tough competitor, a really good player. And...
Voilà, je crois que vous avez tout compris.
C'était, c'était en suédois, je crois.
Vous avez tout compris, pas besoin de traduire, je vous dis même pas qui c'est.
Non, on l'a reconnu tout de suite.
C'est Steven Gerrard.
Voilà.
Et son accent Scouser qui dit... Et là, je cite le grand Steven Gerrard. Scott Brown est l'un des joueurs les plus tenaces contre lesquels j'ai joué dans ma carrière. C'est vraiment un très bon joueur.
Ah, et de la part de Steven Gerrard.
Si Steven Gerrard le dit.
De la part d'un mec qui a deux prénoms, déjà.
Oui, exactement.
En général, c'est les serial killers qui ont deux prénoms.
Oui, exact.
Émile Louis, Guy Georges.
Guy Georges. Et Steven Gerrard.
Et comme si Scott Brown avait encore quelque chose à prouver. Le week-end dernier, il a essuyé deux énormes tacles de la part d'un joueur d'Aberdeen.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est relevé, il a harangué la
foule.
C'est
lui, je l'ai vu, ça, bien sûr. Ouais, il était hyper content.
Voilà,
comme s'il avait marqué un but.
Tout muscle dehors, il a harangué la foule.
Tout à fait.
Prends ça, Neymar.
Samedi, midi pile.
Et la semaine dernière, c'était Swan qui était là, à ta place, Sylvain. Et Swan a fait une vanne sur Johnny.
Ah
ouais, trop tôt. Comme on dit, donc Mathieu, on a reçu un coup de fil encore une fois.
Et on est harcelé de coups de fil. Faudrait, les mecs, faudrait vous calmer un peu sur
des coups de fil, des
banderoles et
des courriers avec des aigles à la fin des courriers, je crois. Bref, Sylvain, toi, t'as rien contre les pantalons en cuir et les gens qui déshéritent leurs propres enfants?
Non, absolument pas.
Ah ben ça
absolument
tombe
bien. Pas. J'ai d'ailleurs des enfants.
Ah mais très bien. Ben,
ça
j'espère qu'ils écoutent. Tu vas nous parler des banderoles de ce week-end, Sylvain.
Oui, et aujourd'hui absolument personne ne va se plaindre puisque c'est extrêmement consensuel.
Ah
voilà,
très
puisque
bien.
Bon, on peut plus rien dire aujourd'hui. On peut plus parler de Johnny.
On a des courriers.
Alors nous sommes samedi midi et nous sommes à Troyes et les ultra-troyens s'apprêtent à recevoir le PSG à 17h.
Oui.
Ils sont en train de replier leur banderole choc qu'ils vont déployer tout à l'heure.
Ouais.
Une banderole toute simple en forme de soutien aux pauvres supporters parisiens qui vont devoir affronter le Real sans Neymar, qui a perdu sa cheville malheureusement tout seul. Et donc ils vont déployer une banderole qui dira juste PSG, un de perdu. 11 éliminés.
Ouais. Pas mal.
J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un tout petit fait intéressant qui se déroulera pile ce samedi midi devant le stade de l'Aube. Et visiblement, les supporters parisiens ont déposé une grosse statue d'un cheval en bois là juste sur le parvis. Et les stadiers sont en train de se demander quoi en faire. On l'a fait rentrer dans le stade, c'est quand même sympa, c'est un cadeau, qu'est-ce qu'on en fait ?
Ça me rappelle quelque chose.
Voilà. Allez, une deuxième banderole, ouais. On part en Italie. Alors plus précisément du côté de San Siro, où le Milan AC va recevoir l'Inter ce dimanche. Un dimanche que prépare consciencieusement Paolo, un supporter milanais qui a récemment été élu homme le plus indécis du monde, qui est en train de couper un drap et de créer sa propre banderole lui-même qu'il déploiera à la 45e minute. Un tout petit « Allez Milan !» une grosse lettre qui va faire l'unanimité. Voilà. Et puis une petite dernière, un petit détour par Marseille qui reçoit le FC Nantes cette fois après deux confrontations contre Paris. Et alors on sait tous que les habitudes ça se prend très très vite et donc là les Marseillais sont en train de déployer leur grande banderole Paris Paris on t'encule. Voilà, et en plus ça coûte très cher une banderole donc on va pas non plus renouveler à chaque fois.
Bien sûr, c'est un classique.
Football Recall. Samedi 17h.
Et le PSG va se déplacer donc sur la pelouse de
3.
Oui, je crois qu'on l'a bien dit déjà. Et donc sans Neymar, c'est vrai qu'on l'a appris qu'il serait absent a priori entre 6 et 8 semaines.
Ça c'est formidable parce qu'on n'a jamais été autant abreuvé de débats médicaux dans la presse.
Sur le métatars, métacarpe,
tous les médecins de France se réunissent pour nous donner leur avis sur
la cheville. Il y avait ça en 2002 avec Zidane.
Oui, exactement, la cuisse de Zidane.
Exactement la même chose, la cuisse de Zidane.
Ouais. Et ben on va en parler justement parce que tout le monde parle de cette cheville et tout le monde parle du père de Neymar mais on parle moins de son staff médical. Mm-hmm. Oui, parce que Neymar, il a son propre staff médical, il a sa propre équipe. Ils sont deux, à temps plein d'ailleurs, c'est Ricardo Rosa et Raphaël Martini. Le premier est préparateur physique, le deuxième est physiothérapeute. Ils se sont rencontrés au club de Santos avec Neymar, donc ça date de 2012. Je vous fais un peu l'historique rapidement. Au bout d'une saison à Barcelone, Neymar et son père décident de les faire venir au club. Là-bas, leur salaire et leurs dépenses sont pris en charge entièrement par la société du père de Neymar.
Sympa, généreux.
Assez classe, ouais. Rosa et Martini se rendaient au centre d'entraînement tous les jours pour superviser Neymar. Et encore mieux, en Catalogne, Rosa vivait même avec Neymar, chez Neymar, où il travaillait tous les jours entre 2h et 2h30. Ouais, la presse catalane est très précise.
Très pratique. Si à 2h du mat, tu ressens une violente crampe dans le mollet, hop, tu as le médecin tout de suite.
Justement, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un chez soi. Alors là où ça devient intéressant, c'est sur la répartition du travail, hein, dans le quotidien catalan sport. Rosa donnait donc sa mission précise, disait, je cite, « Tout ce qui est résistance, vitesse, agilité, ça c'est le club qui s'en occupe. » Tandis que notre travail, à nous, se concentre essentiellement sur la prévention des blessures.
Ah bah oui.
Sans déconner.
Mais c'est hyper vaste, la prévention des blessures. Il faisait à manger,
Mais justement, je cite toujours le préparateur de Neymar qui dit « Nous travaillons pour prévenir des blessures de partout, des chevilles, du genou à la nuque. On travaille sur toutes les articulations. »
Cheville, ça a bien marché.
Samedi, 20h.
Sylvain.
Ah oui,
c'est toi.
C'est moi.
Oui, c'est ma cuisse.
C'est
attention,
moi.
C'est ça.
Sylvain est tellement concentré dans ses visions qu'il ne nous voit plus.
Oui, car je vous rappelle que je suis médium foot.
Oui, bah, voilà. Oui, n'insiste pas trop là-dessus parce que la dernière fois on a eu des problèmes. Ouais, médium foot.
Les médiums sont venus. On a reçu des...
C'est pile entre nul foot et super foot. Médium foot. C'est pile au milieu.
C'est pile ma taille. Outre les banderoles, tu as une autre passion dans la vie, Sylvain. Ce sont les moments nuls.
Oui, alors en fait. Comme je vois un peu ce qui va se passer
c'est
à l'avance, je me suis dit que ça manquait un petit peu de praticité, ce podcast. Les gens, ils ont besoin d'un petit quelque chose pour les aider dans leur quotidien.
C'est ça.
Et donc, je vous ai préparé une petite nouvelle rubrique dans un esprit très pratique pour vous permettre de vivre le meilleur de chaque match.
On est vraiment là pour les gens.
Rien rater.
C'est le podcast serviciel.
Ouais. Serviciel. Et donc, je vais vous dévoiler à l'avance les faits les moins marquants de la journée de ce samedi et de ce dimanche, évidemment, de ce week-end.
Très intéressant.
Voilà, et comme ça vous permettra d'aller faire pipi au bon moment, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire pipi à la mi-temps. Voilà. Oui. Parfois, on y va, on se dit « Ah bah, j'arrive pas, ça va revenir 15 minutes plus tard, le match continuera.
Oui, » Quand on a 60 ans.
Voilà. Quasiment
ce qui va bientôt arriver, c'est ce que tu n'osais pas dire. Alors,
et donc
c'est moment.
Je vous propose les quatre faits les moins marquants de ce week-end de foot.
Ouais.
Alors on commence tout de suite par un match en Angleterre, voilà, qui se déroule à Tottenham, où Tottenham est opposé à Huddersfield, avec Lucas Moura, qui est entré à la 58e minute, hein, comme il le fait à chaque fois, ouais. et qui, à la 60e, va récupérer un ballon dans ses 18 mètres, partir dans une chevauchée folle de 60 mètres en dribblant trois joueurs adverses, avant de finir tout seul en 6 mètres avec le ballon. Donc là, vous pouvez en profiter. Si vous avez une petite dalle, vous allez vous servir un truc.
Donc, quand on le voit partir, c'est bon.
Voilà, vous le voyez reprendre le ballon, hop, vous allez vous servir un petit spritz. Voilà. Deuxième fait le moins marquant du week-end, c'est un fait qui va durer un petit peu plus longtemps. Donc, vous allez pouvoir prévoir quelque chose,
un petit
rendez-vous Tinder, faire un gâteau, passer l'aspirateur, puisqu'il s'agit de l'intégralité du match Angers-Guingamp. Voilà. Vous avez une très, très grosse envie de pipi qui dure 90 minutes.
Tout le match.
C'est le moment. Angers-Guingamp, vous y allez.
Ok, très bien. On zappe.
Un troisième petit fait marquant, c'est tout simplement l'arrêt. C'est tout simplement l'arrêt du match PSG 3 pendant de longues minutes. Ça va se passer vers la 38e minute, hein, à 7-1 pour Paris.
C'est précis. Hein.
et c'est un match qui va être arrêté pour fêter les 60 ans de Benjamin Nivet. On va amener un petit gâteau avec 60 bougies, un déambulateur en chocolat, ça va être rigolo, tout ça, mais vous pouvez le passer puisque ça va être une petite cérémonie assez longue.
Ça va être long, forcément.
Voilà, ça va être très long.
Si il va traverser tout le terrain.
Et un petit dernier fait non marquant, en fait, c'est Enzo Crivelli, attaquant du SM Caen, qui marque pas beaucoup, il faut bien l'avouer. Voilà. Okay. Mais si vous voulez, je peux aussi quand même, pour finir sur une note positive, vous donner le fait le plus marquant du week-end, celui qu'il va pas falloir rater.
Ah, ça je veux bien.
Alors, ça va se passer à la 62e minute du match Montpellier-Lyon.
C'est très précis.
Voilà. Mariano Diaz va faire une passe à un partenaire mieux passé que lui. Ce sera furtif, c'est un moment à pas manquer, c'est comme les comètes, ça passe une fois tous les 70 ans, il faut pas rater ça.
Voilà, c'est très bien cette nouvelle rubrique parce que ça permet vraiment d'organiser sa journée du samedi. Bah
là,
merci.
J'ai tout mon week-end de Calais là.
Voilà, super.
Merci Sylvain.
Dimanche, 11h15.
Dimanche, il est 11h15 et c'est apéro chez Sébastien Corchia dans la banlieue de Séville.
Oui.
Saucisson, pâté, pastis, suivi ensuite d'un bœuf bourguignon.
Apéro Front National.
Un repas. Et ben presque, parce que c'est un repas 100% français.
Ah, ben tu vois.
Auquel sont invités tous les Frenchies du FC Séville, et ils sont nombreux, car le FC Séville est l'équipe la plus française des grands championnats.
Française, monsieur.
Six Français.
Française de papier. Hein.
Six Français dans l'effectif. L'effectif du FC Séville.
C'est vrai.
Alors, je vous propose, parce que je sais que vous aimez ça.
Le petit jeu.
Un petit jeu.
Ah.
Je vous propose un petit jeu. Spécial French Touch.
D'accord.
Alors, à chaque fois, je vais vous donner le choix entre trois possibilités et vous me dites qui est le plus français des trois.
D'accord. Alors, c'est pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast numéro 7, c'est un jeu un peu plus compliqué que ton dernier podcast.
J'ai tiré les leçons du passé.
On avait le choix entre deux possibilités à chaque fois. Forcément, Mathieu s'est fait
donc voilà, il s'amusait à, dès le premier mot de la question, à balancer une des deux possibilités en se disant, de toute façon, il y a une chance sur deux.
Hein.
Donc, j'ai corsé les choses, je suis passé à trois possibilités.
Une chance sur trois.
Alors, on y va, on commence.
Allez.
Alors, qui est le plus français entre eux ? L'équipe de Newcastle 2012-2013,
ouf.
Le casting de Juste la fin du monde de Xavier Dolan, ou l'équipe de France de Coupe Davis ?
L'équipe de France de Coupe Davis ?
Il y a un peu.
Attention, en pourcentage ou en nombre ?
En nombre.
Newcastle, je dirais Newcastle.
Et c'est Newcastle.
Oui, monsieur.
Parce que dans l'équipe de Newcastle 2012-2013, il y avait 11 Français dans l'effectif.
Alors attends, il y avait Ben Arfa, non ?
Il y avait Ben Arfa.
Ah ah. Il faut tous les deviner.
Non. Je vous précise juste que dans le casting de Juste la fin du monde, il y avait 5 Français. Oui. Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel. Et que dans l'équipe de France de Coupe Davis, il n'y en a aucun. Puisque Luc Capouille habite à Dubaï, Tsonga Yaske en Suisse, et Adrien Manarino, qui peut être considéré dans l'équipe de France de Coupe Davis, puisqu'il est numéro 3 français, habite à Soisy, en Essonne.
Ah, eh oui. Donc voilà.
Donc ça nous fait au moins un français.
Allez, un point pour
Et voilà. On passe à la suite ?
Allez, un point.
Deuxième, allez. Quel français a remporté le plus de trophées en Angleterre ?
Thibaut, tu peux jouer.
Ouais.
Thierry Henry.
Je connais pas cette personne, Adrien Manarino, donc c'était difficile pour moi d'intervenir.
Personne ne le connaît.
Donc, quel français a remporté le plus de trophées en Angleterre ?
Vas-y.
Thierry Henry, les Daft Punk ou le constructeur Peugeot ? Bah,
J'imagine.
Daft Punk ?
Thierry Henry ?
Il y a de tout.
Oh, le rêve.
Et ben c'est Sylvain qui l'emporte, parce que Peugeot a remporté 3 fois le titre de voiture de l'année, Car of the Year. L'année dernière avec la Peugeot 3008, en 2014 avec la Peugeot 308, qui mettait fin à une dizaine de 12 années, puisqu'en 2002, Peugeot avait gagné le titre de voiture de l'année avec la Peugeot 307.
Ah oui.
Quant à Thierry Henry, il a remporté 2 fois le titre de meilleur joueur de la Première Ligue en 2004 et 2006, et les Daft Punk n'ont remporté qu'un Brit Awards. C'était en 2014 pour 5 nominations.
La vérité, c'est que j'avais vu la bonne réponse, mais je suis complètement bon joueur. J'ai dit la vérité, parce que j'ai très sympa. La vue sur
Je vais donc cacher ma feuille.
Très bien. Comme en cours.
On termine avec une dernière.
Allez.
Une petite dernière. Alors, qui est français entre eux?
Oui.
Matt Le Tissier, André Le Pâté.
Qui n'existe pas.
Et Jacques Lecomte.
Moi, je vote pour Jean-Michel Le Pâté, qui a le meilleur nom de tous.
Très bon pseudo.
C'est André.
J'ai un voisin qui s'appelait Jacques Lecomte, donc je sais qu'il est français.
Le Tissier a joué dans les années 90, donc je le connais.
Ouais.
C'est Matthew Le Tissier, il est anglais.
Ouais, bien joué.
Un piège.
Bien joué. Et oui, c'était un piège, parce qu'effectivement, Matt Le Tissier, de son nom complet Matthew Le Tissier, est né à Guernesey, une île anglo-normande, donc pas très loin de la France, mais il est quand même anglais et il a fait toute sa carrière à Southampton.
Ouais.
Jacques Lecomte est un des multiples pseudos de Stuart Price, producteur et DJ anglais qui a connu le succès sous son alias Les Rythmes Digitales.
Très très bon, bien sûr.
Voilà. Ouais. Et André Le Pâté, très connu André Le Pâté.
Ah comment ça?
Ah bah on écoute un son et je vous dis après.
Vous êtes qui?
Et moi je suis André Le Pâté.
Eh oui, André Le Pâté, c'est
je ne sais pas, mais
c'est Christian Clavier dans le remake américain des Visiteurs.
Bien
Jacques
sûr.
La Fripouille était devenu André Le Pâté. Et il n'y a pas plus français que André Le Pâté.
Les Visiteurs. Donc.
Dans Les Visiteurs en Amérique, ça s'appelait.
Ah bah oui, ça a bien marché.
Ouais, en tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu.
Oui.
Ouais, je suis très content.
Bah, forcément, quand les règles sont bien faites.
Voilà.
Dimanche, 20h.
Et à cette heure-là, dimanche, vous rentrerez de votre partie d'Urban Foot. Vous constaterez que dans votre short, dans vos chaussures, se trouvent plein de ces petites billes noires que l'on retrouve sur les terrains synthétiques. Ces petites billes sont aujourd'hui accusées d'être cancérigènes. Thibaut, tu avais révélé ce qui ressemble à un scandale sanitaire en novembre dans une enquête pour SoFoot.
Oui, effectivement, en fait, on avait montré dans cet article que la France a autorisé ces granulés en faisant des études qui étaient très vieilles et très partielles. Mmh. Et après ça, en fait, il y a pas mal de gens qui nous ont écrit en me disant j'ai eu telle ou telle maladie et les médecins m'ont dit qu'ils comprenaient pas pourquoi j'avais eu ça, que c'était très étrange. Et en lisant l'enquête, ils se sont rendus compte qu'ils jouaient sur des terrains synthétiques et ils se sont posé la question, est-ce que ça peut avoir un lien ou pas? Et donc, on a notamment eu le témoignage de Bruno, qui est assez dur, que vous allez entendre. Mais toute la difficulté, c'est de savoir s'il y a un lien ou non. Lui, il ne peut pas savoir. Les médecins lui disent qu'il ne saura pas. Nous, on peut certainement pas trancher. Mais ça confirme qu'il faut vraiment mener des études épidémiologiques, c'est-à-dire prendre un grand nombre de gens qui ont joué sur ces terrains et puis et voir s'ils sont ou non plus malades que la population globale. Quoi.
On écoute Bruno.
Football Recall.
Moi, je suis footeux, je joue au foot depuis que je suis tout petit. Donc à l'époque, on jouait pas sur terrain synthétique, parce que ça n'existait pas. J'ai commencé à jouer sur ce type de terrain en 2004. Et en fait, en septembre 2016, à la reprise de l'entraînement, je me suis aperçu que j'avais une boule sous la voûte plantaire. Donc au début, j'ai cru que c'était une tendinite. Donc j'ai été consulté, mon médecin, pareil, n'avait jamais vu ça. Donc m'a envoyé chez un podologue pour avoir des semelles orthopédiques. Et en fait, les semelles, j'ai jamais pu les mettre. Donc comme la boule ne disparaissait pas, on a poussé les examens. On m'a fait une échographie, scanner, IRM. Et à l'IRM, ils se sont aperçus que ça pouvait être quelque chose de malin. Donc ils m'ont fait une biopsie. Et au mois de novembre, j'ai eu les résultats et on m'a dit que c'était cancéreux, quoi. Eux, c'est une maladie qui est tellement rare qu'ils ont du mal à savoir d'où ça vient. C'est vraiment un type de cancer très très rare, quoi. Quand ils m'ont décelé mon cancer, j'ai le seul remède pour guérir, ça a été l'amputation, quoi. Donc j'ai été amputé de la jambe droite au niveau transtibial, quoi. Je fais des scanners du thorax tous les 4 mois et aujourd'hui j'ai pas de métastases, mais je sais qu'il y a des gens suite à un sarcome qui ont eu des métastases au poumon, quoi, et ça devient un peu plus compliqué, quoi. Et là je me suis dit que ce que j'avais eu, ça pouvait peut-être éventuellement venir à cause du terrain synthétique, quoi, surtout placé à cet endroit-là sous la voûte plantaire, quoi. 13 ans que je joue sur ce type de terrain, quoi. Donc
et à chaque fois sur ces terrains, il y avait donc les petites billes noires de plastique de pneus broyés, en fait, c'est ça?
Ouais. On sait que quand on a fini le match ou l'entraînement, des petites billes noires, on en retrouve un petit peu partout, quoi. Hein, et par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'été, le terrain est quand même, ça chauffe un peu les pieds quand même, et puis ça dégage quand même une petite odeur, quoi. Donc je pense qu'il faudrait pousser un peu plus les recherches, quoi. Ça mérite d'approfondir le sujet, quoi, et de pas laisser tomber. Parce qu'aujourd'hui, il y a, maintenant, on voit que ça, quoi, que du synthétique, quoi. C'est sûr qu'au niveau, je pense qu'au niveau économie, pour les villes, c'est pas négligeable parce qu'il y a pas d'entretien, quoi. Donc, pour faire marche arrière, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. J'ai à peu près une vie normale, quoi, entre guillemets, quoi. Je suis autonome, je peux reconduire, je peux faire du vélo, descendre des escaliers, monter, voilà, quoi. C'est juste le foot, quoi, qui est un peu plus compliqué, ouais.
Football Recall.
C'est un témoignage très fort qu'on vient d'entendre. Et ce qu'il faut souligner, Thibaut, c'est que toi, tu as récolté les premiers témoignages de victimes supposées, on va être prudent, de victimes supposées de ces terrains synthétiques. Tout le monde a pu voir le sujet, beaucoup de monde a pu voir le sujet dans Envoyé spécial jeudi dernier, le sujet sur ce problème sanitaire que poseraient les terrains synthétiques. Mais là, en tout cas, toi, Thibaut, tu as rencontré pour la première fois des victimes qui ont accepté de te parler de ce problème. Qu'a fait l'État français à la suite de ton enquête et à la suite de la diffusion du sujet d'Envoyé spécial ?
Tout d'abord rien, pendant longtemps, hein, parce que moi j'ai commencé à enquêter là-dessus l'été dernier, donc à l'époque en France personne n'en parlait, et j'ai commencé à demander tout simplement des réponses à la fois du ministère de la Santé et du ministère des Sports. J'ai pas eu du tout de réponse jusqu'à la publication de mon article en novembre.
C'est-à-dire qu'ils ont refusé de te parler ou ils savaient pas quoi?
Non, mais c'est la technique classique, on revient vers vous, quoi.
D'accord.
Pour l'instant j'attends encore, quoi.
Ils t'endorment et puis tant qu'il n'y a pas de vague, on réagit pas, quoi.
Tout à fait, ouais. Et en fait, suite à la publication de mon article, il y a plusieurs élus qui ont écrit en fait au gouvernement en demandant une réponse, donc c'était une question officielle, donc ça implique une réponse dans les 3 mois. Le gouvernement a répondu donc le jour de la diffusion d'Envoyé spécial en disant qu'il allait demander à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en fait de vraiment faire une étude là-dessus, quoi.
Donc c'est le tout début, quoi. C'est
tout à fait,
c'est pas de décision qui est prise, c'est juste demander à une commission de faire une enquête.
C'est important de rappeler la chronologie. C'est-à-dire que toi, tu commences à enquêter l'été dernier, tu sors cette enquête en novembre, il ne se passe rien. Envoyé spécial diffuse le sujet jeudi dernier, ça coïncide avec la fin du délai légal pour que le gouvernement réponde aux députés qui l'ont interrogé. Donc il s'écoule quand même plusieurs mois, et on nous parle assez souvent du principe de précaution, et là le principe de précaution n'a absolument pas été activé, quoi.
Non, pas du tout. Effectivement, c'est vraiment la question, ce qui se pose. Là, on sait qu'il y a des substances cancérigènes dans ces granulés. Il y a vraiment des doutes sérieux sur la question. Le problème du principe de précaution, c'est que ça a toujours un coût. Et si on l'applique, et ça veut dire qu'il faut remplacer tous les granulés de tous les terrains de France. C'est des coûts énormes. Et là, j'ai l'impression que le principe de réalité économique prend le dessus sur le principe de précaution, quoi.
Et pour qu'on se fasse une idée de l'ampleur, c'est combien de terrains synthétiques en France ?
C'est plusieurs milliers.
Et on connaît tous un terrain synthétique à côté de chez soi.
Il y a non seulement les terrains synthétiques, mais il y a aussi les centres de foot à 5, quoi. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est à la mode depuis pas mal de temps. Il y a des joueurs de foot et des ex-joueurs de foot qui ont monté des centres de foot à 5. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. On a tous des potes dans notre entourage qui joue au foot à 5.
Il y a énormément d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent là-dessus.
En plus.
Même les scolaires avec les écoles vont parfois jouer sur ces terrains-là, quoi.
Et pour revenir au cas de Bruno le dit dans le sujet, c'est important de le rappeler. Il n'est pas certain que son cancer a été provoqué par un terrain synthétique.
Non, pas du tout.
C'est des suppositions parce que ce cancer n'apparaît pas normalement
sur la voûte plantaire. En fait, un sarcome sur la voûte plantaire, déjà un sarcome c'est assez rare, et un sarcome sur la voûte plantaire c'est quasiment du jamais vu pour les médecins qui l'ont traité. Et donc tout ce qu'il a comme élément, c'est que quand il est tombé malade, les médecins lui ont dit plusieurs fois qu'ils étaient étonnés de la situation de ce sarcome. Et l'autre élément qu'il a, c'est qu'il a lu mon article et il a fait un lien. Mais comme il le dit lui-même, il a tout intérêt à pas trop y réfléchir parce que il n'aura jamais la réponse, en fait.
Ça n'a pas été encore établi. T'as reçu beaucoup de témoignages suite à ton enquête ?
Oui, j'ai reçu plusieurs dizaines de témoignages. Là, ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est les témoignages où il y avait le plus de doutes, c'est-à-dire où à chaque fois, en fait, les médecins avaient dit aux gens qu'ils avaient du mal à y comprendre cette maladie. Mais après, il y a plein de gens qui nous ont contactés, qui ont eu un cancer en jouant sur des terrains synthétiques, sans qu'il y ait de vrais liens établis, quoi.
Bien sûr.
On va passer à un second témoignage, celui de Yanis. Tu nous racontes en deux secondes, Yanis ?
Oui, alors lui, c'est quelqu'un qui est jeune, il a 23 ans, il est hyper sportif, il m'a dit qu'il faisait hyper attention à comment il mange. Et en fait, il a chopé une maladie qui arrive normalement qu'aux personnes qui sont vieilles et très malades. C'est une infection de la peau hyper grave, sa jambe a vachement gonflé. Après un match où il avait une toute petite plaie au tibia, il a joué sur terrain synthétique et quelques jours plus tard, sa jambe s'est mise à gonfler énormément. Et donc, il a lui aussi lu l'enquête et je lui ai demandé s'il avait fait le lien entre sa maladie et l'enquête.
Oui, quand j'ai lu l'enquête, je me suis dit pourquoi pas, parce que normalement c'est une maladie qui arrive aux gens de plus de 50 ans. Je suis plus ou moins sportif comme vous tous et puis voilà, je mange sainement, etc. Donc avec les médecins, on comprenait pas trop comment j'avais pu choper un truc comme ça. Alors j'ai essayé d'avoir des renseignements, mais les médecins en général ne savent pas, puisque c'est assez jeune en fait qu'on se pose des questions sur les billes des terrains synthétiques, si j'ai bien compris l'article, qui viennent de pneus broyés. Après j'ai demandé du coup directement pour le contact avec des pneus, et on se rend bien compte que chez les garagistes et tout, les gens qui manipulent les pneus, il y a des maladies de la peau ou des choses comme ça quoi. Donc c'est un peu logique puisque les pneus ils sont au sol, il y a des hydrocarbures et tout ce qu'il faut, donc...
Alors, est-ce que toi tu jouais tous les dimanches au foot sur les synthétiques? Est-ce que t'as changé ta pratique ou est-ce que...
Alors, c'est vrai que j'y vais quand même de temps en temps, mais ça m'a beaucoup refroidi. Je me suis mis à la course à pied pour me faire courir sans but, quoi. J'aime bien courir après un ballon. Mais voilà, je me suis plus mis à la course à pied et puis... Voilà, parce que ça a fait vraiment peur. Je pouvais vraiment, vraiment plus poser mon pied. Et quand on m'a dit aussi que si ça avait été diagnostiqué un petit peu trop tard, puisque c'était compliqué de se dire qu'un jeune avait un érysipèle, j'aurais pu aller jusqu'à l'amputation. Ça fait vraiment flipper. Et ça, quand on te dit viens, on fait un foot et tout, tu dis ah ouais, synthétique, sans moi.
Ouais. Bon, en tout cas, déjà, merci à Bruno et Yanis d'avoir accepté de témoigner.
Ouais,
on s'imagine que c'est pas facile. Pour tous les auditeurs qui jouent sur ce terrain synthétique, et j'imagine qu'ils sont nombreux, Thibaut, est-ce qu'on peut leur donner quelques conseils pour limiter les risques après une partie de foot?
Ouais, il y a des conseils de base à suivre. La première chose, c'est de jamais manger sur le terrain ou manger quand on a les mains, parce que vous voyez bien, quand on a joué sur ces terrains, on a les mains noires, etc.
Ouais.
De même, quand la bouteille d'eau qui a traîné par terre, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de granulés qui soient rentrés dedans.
Tout le monde le fait, ça.
Bien sûr, tout le monde le fait.
Dans les cages, et puis,
voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et il vaut mieux prendre une douche tout de suite après, donc pour vraiment se nettoyer, bien frotter, et être sûr qu'il n'y ait pas de granulés qui restent collés sur la peau, quoi. Et si jamais vous vous blessez, ce qui a été le cas de Yanis, il faut vraiment désinfecter tout de suite, mettre un pansement, parce que effectivement, on risque une infection tout de suite.
Et on est d'accord, quand on joue, tu as toujours des petits granulés qui sont dans ta chaussure, ça faut les laisser dans le terrain.
Il vaut mieux les vider, ouais.
Et pas les ramener chez
mais
soi.
Mais ça, d'ailleurs, il faudrait que ça soit affiché sur tous les terrains, et ça a été proposé par les autorités européennes. Pour l'instant, je crois que c'est pas le cas. Ça fait un moment que j'y suis pas allé sur les urbaines, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un affichage comme ça, ouais.
Bon, en tout cas, on continuera à suivre.
À suivre de très près, ouais.
Ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de ce week-end à venir. Vous savez déjà tout. Avant que chacun donne son match, on va demander un petit service, pas grand-chose.
Ouais.
Un petit service à nos auditeurs.
Pour la France.
Vous vous rendez sur votre appli de podcast préférée.
Tout à fait.
Et vous notez, vous abonnez, vous donnez un commentaire. Sur la page Football Recall de votre appli de podcast préférée.
C'est comme sur TripAdvisor.
Voilà.
Sauf que vous ne mentez pas.
Ouais, vous ne mentez pas surtout. Et puis, vous continuez à écouter le podcast sur les sites de SoFoot et Deezer.
Vous en parlez autour de vous, mais pas dans la rue, parce que sinon vous allez passer pour un fou.
Football Recall.
Alors, les matchs du week-end. Sylvain, ton match à ne pas louper.
Oui, alors j'ai une double reco, mais les deux sont très courtes. La première, c'est que le PSG va jouer à 3 ce week-end.
Ah, donc.
Je sais pas si vous... Mais, bah, moi, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire à 3 contre 11. Donc, j'ai envie de suivre ce match. Et j'espère qu'ils vont faire des passes à Cavani s'il est dans les 3. Parce que si...
Raymond DeVos.
Ouais, il m'a eu.
Une petite deuxième.
Je faisais trop de blagues.
C'est donc en Italie, il va y avoir ce dimanche à 15h un très beau Benevento Hellas Vérone, soit le 20e avec 10 points contre le 19e avec 19 points. 15h, c'est la meilleure heure pour faire la sieste, donc je vous propose de suivre ce match, et aussi pour une deuxième petite raison, le snobisme, car vous serez le seul.
Bien sûr, voilà. C'est vrai.
Thibaut, ton match?
Oui, bah, ce qu'il faut pas rater, c'est le Nice-Lille, hein, parce que c'est le match
le hyper évident. Bah, c'est le Nice-Lille,
non mais tous les spécialistes ont entendu parler du Souquet Tico.
Ah,
alors non,
non, je sais pas.
Du nom de, d'Arnaud Souquet, le joueur qui a joué à la fois au LOSC il y a quelques années et maintenant à Nice.
D'accord.
En fait, ce mec a une histoire vraiment cool. Enfin, pendant un moment, ça n'a pas été très cool, mais j'aime bien son histoire. Il était, quand il avait 16-17 ans, il jouait à Lille. Il rentre en Coupe d'Europe, c'était avec Rudy Garcia à l'époque. Il marque contre le Slavia Prague. Et on se dit tous à l'époque, génial, le nouvel Eden Hazard.
Petit phénomène, quoi.
Tout à fait.
Bien sûr.
Et en fait, le phénomène a fini à Pôle emploi parce que. Il a
merdé. Le cynisme du mec. Non, il a signé à Pôle emploi. Ouais, pour 3 ans. Ouais, vraiment, c'est bien.
Mais il est passé par le Poiré-sur-Vie pour repartir, puis par Dijon quand ils étaient en Ligue 2. Et là, il arrive à Nice aujourd'hui.
Donc une belle histoire.
Ouais, une très belle histoire, comme on voudrait en voir plus.
Souquet-Tico.
Il va marquer deux buts. Ouais. Il va marquer deux buts contre Lille ce week-end. Donc faut
pas le rater. Toi aussi, t'as des visions.
Ouais, je le sens. Je le sens. Okay.
Mathieu,
moi, je vous conseille un match de
Première Ligue.
Exactement. Ah, un match de Première Ligue. Sylvain en a un peu parlé tout à l'heure. C'est Tottenham Huddersfield. C'est samedi 16h sur SFR Sport 1. Alors, parce que c'est la suite du Hunger Games, ou alors pour les plus âgés, du Battle Royale.
D'accord.
Parce qu'en Première Ligue, il y a 4 places pour la future Ligue des Champions et il y a 6 équipes à très gros budget. Donc, il va forcément y avoir des morts. Hein. Alors, ça se dessine mal pour Arsenal et Manchester City est loin devant. Donc, on ramène les 6 équipes pour les 4 places à 4 équipes pour 3 places.
Okay.
Et ces 4 équipes se tiennent en 6 points. Donc là, j'en viens au match de Tottenham.
Ouais.
Le week-end dernier, Tottenham s'en est sorti de justesse à Crystal Palace avec un but de Harry Kane à la 89e. Donc là, contre Huddersfield, ça peut être chaud, chaud, chaud. Donc moi, à votre place, si vous aimez le suspense, je regarderai ce match. Et puis à Tottenham, il y a un joueur qu'on aime tous. Serge Aurier, évidemment.
Oui,
Serge Aurier.
Serge.
Week-end dernier, qu'est-ce qu'il a fait, Serge? Alors, je me limite à la semaine écoulée parce que sinon c'est trop long.
Trop long, hein.
Le week-end dernier, Aurier a battu un record. Il a raté à 3 reprises ses remises en jeu, c'est tout.
Ah, c'est moche.
Dont 2 fois,
en
l'espace d'une minute.
Oui.
Dans la même minute, pas sur la même touche. Hein.
Champion.
2 touches différentes.
Personne qui lui a dit, tu arrêtes de faire les touches, c'est... Serge. Non, laissez continuer.
Et alors, ce qui est génial, c'est que Serge Aurier, en décembre, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, je suis quelqu'un d'intelligent, même si ça ne paraît pas être le cas.
Oui.
Voilà, donc on regarde quand même Tottenham Huddersfield en espérant que Serge Aurier joue ce match.
Très bien.
Thomas, ton match.
Je suis le dernier, tu vois, c'est bizarre quand on est dernier. C'est un peu long, mais ça vaut le coup. Moi, je vous recommande regarder le prochain match du Rayo Vallecano. C'est la 2e division espagnole. Ça sera sur le terrain de Valladolid dimanche 18.
Mais quel snob!
Alors, pas du tout, tu vois, qu'il y a vraiment une histoire derrière. Le club madrilène vient d'être sanctionné d'une amende de 30 000 euros.
Ouais.
C'est quand même pas mal. Cette décision vient pas de n'importe qui, vient de la Commission contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport.
Okay.
Un beau programme, un programme assez chargé, qui est une entité qui a été créée en 2007. Petite parenthèse, là où c'est intéressant, c'est que cette commission a pris la suite d'une autre commission qui s'appelait la Commission nationale contre la violence lors des manifestations sportives. Ça veut dire une chose, avant 2007, en Espagne, on s'en foutait du racisme, on s'en foutait de la xénophobie, on s'en branlait de l'intolérance quand même. Quoi. En 2007, les mecs ont commencé à se réveiller en disant « Dis donc, c'est pas bien ce qu'ils font là !»
Allez, on ajoute des choses dans la commission.
Ouais, dis donc, les pots de banane, là, c'est pas bien ça, vraiment. Quoi. Bon, bref. Tout ça pour dire que la commission a demandé une amende concernant la rencontre du 11 février entre le club de la banlieue de Madrid, donc le Rayo, et l'autre club de Séville, l'Atlético.
Mm-hmm.
Alors maintenant, pourquoi la commission reproche aux supporters, et là je cite, le déploiement d'un tifo non autorisé, pourquoi pas, je cite, avec un éclair.
Oui.
Un acte que la commission juge grave.
Oui.
C'est la commission contre la violence, le racisme et la xénophobie. Hein. Donc là on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs avec un éclair? Je sais pas, ils ont mis
un symbole. Il y en avait qu'un.
Alors non, pas de jeu de mots, ils sont pas très jeux de mots en Espagne.
Il y avait qu'un seul éclair ou
il
y
avait
deux?
Qu'un seul éclair, donc ça peut être quoi? Je sais pas, des cercueils avec des joueurs adverses, un truc assez grave. Quoi.
Oui.
Non, mieux ça, j'ai étudié les photos. Et effectivement, on voit bien un tifo scindé en deux, avec d'un côté, les pancartes blanches, ok, de l'autre côté des pancartes noires, et au milieu, un éclair rose. Et alors, après une rapide enquête, ce tifo est un tifo antiraciste.
Ah bon?
Les mecs qui ont fait le tifo s'appellent les Bucaneros, c'est un collectif du supporter de Rayo. Ils sont ouvertement antiracistes, les mecs. Ils font des manifs antiracistes, des slogans antiracistes. À chaque match, ils ont des banderoles antiracistes. Et là où c'est encore mieux, c'est que le match a eu lieu pendant les journées contre le racisme. Oui, organisé par les mêmes supporters qui ont fait le tifo.
Ah ouais,
c'est là où c'est génial.
C'est pas mal.
Et en plus, les joueurs sont rentrés pendant ce match avec une banderole
antiraciste.
Oui, bien, Sylvain, merci. Ah. Et que le club a invité des réfugiés à assister à ce match. Donc là, vraiment, on est dans une commission antiraciste qui punit une banderole antiraciste d'un groupe de supporters antiracistes Je crois qu'on peut pas faire mieux.
Et en même temps, récupérer 30 000 balles. Quelque chose, c'est jamais désagréable.
C'est la crise en Espagne, hein. Merci l'Espagne en tout cas.
Ah ouais, bah c'est vrai, très, très, très bon match. On regarde le match de D2, ouais. Espagnol. Ouais.
Bah, ils vont peut-être faire des banderoles racistes cette fois pour éviter d'être...
pour changer.
Football Recall.
Merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, vous savez déjà ce qu'il va se passer sur les terrains ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, dès jeudi matin sur Deezer et sur le site de SoFoot.
Thibaut, merci.
Merci à vous.
Sylvain, bah, merci.
Bien de rien, Thomas.
C'est tellement naturel. À jeudi prochain, et surtout n'oubliez pas, Football Recall, c'est moins compliqué que les règles de ce putain de baseball.
Football Recall.
Messieurs, dames, place aux enchères, 10h. 5 millions ici. Ah, ça s'emballe, 12 millions. 20 millions par là. Oh, 31 millions. 39 millions ici. 43 millions pour madame. 43 millions une fois, 43 millions deux fois, 43 millions trois fois. Allez, c'est cadeau.
Abonnez-vous à Deezer Premium Plus et profitez de plus de 43 millions de titres sans aucune contrainte, même sans réseau. Deezer, le streaming made in France.